RFI, 6h44 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une de l'info ce matin, les États-Unis avec ce premier revers pour Donald Trump, un juge fédéral suspend la remise en cause du droit du sol ordonnée par le président américain dans un décret signé le jour de son investiture, mesure jugée contraire à la Constitution par ce magistrat. Donald Trump affirme qu'il n'est pas surpris et la Maison-Blanche va faire appel. Donald Trump qui ordonne par ailleurs la déclassification complète des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert en 68, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King. Trois morts qui depuis 50 ans suscitent les spéculations, notamment sur une potentielle implication de la CIA. Les archives nationales avaient déjà rendu public plus de 13 000 documents en 2022, mais l'administration Biden avait bloqué la publication de milliers d'autres, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. Et puis à la une également, l'offensive israélienne qui se poursuit sur le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée. Au moins 12 morts depuis mardi et des centaines de Palestiniens qui ont quitté hier le camp suite aux appels à évacuer. L'opération au sol présentée comme antiterroriste, appuyée par des bulldozers, des avions et des blindés. Le gouverneur de Jenin évoque de nombreuses arrestations et la destruction de toutes les routes menant au camp. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine et à la une, l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, c'est à la une d'Objectif Info.cd. Avec ce titre, les affrontements armés font des milliers de déplacés et mettent à mal les structures de santé. La situation dans le Nord Kivu et le Sud Kivu se détériore rapidement en raison des affrontements armés qui opposent les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La situation humanitaire est critique donc, car les affrontements ont provoqué un exode massif de la population, explique Objectif Info. De nombreuses localités ont été vidées de leurs habitants, les déplacés confrontés à un manque d'eau, à un manque d'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins sont particulièrement vulnérables aux maladies. Selon Médecins Sans Frontières, plus de 270 blessés ont été soignés dans les hôpitaux de Minova et Numbi en seulement 2 semaines.
Une situation humanitaire alarmante qui préoccupe également Afrique.com.
Près de 600 000 personnes sont actuellement déplacées dans les régions à l'ouest de Goma, précise Afrique.com, sur la route menant à Saké, mais aussi au nord, dans d'autres camps qui peinent à accueillir un afflux croissant de réfugiés. Selon Jeune Afrique, de nombreux déplacés se dirigent désormais en direction du centre-ville de Goma. Ce sont pour la plupart des agriculteurs qui ont abandonné leurs champs, précise AllAfrica.com. Une habitante commente l'aggravation de la situation dans la région. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les camps de déplacés qui souffrent, dit-elle. Certains d'entre nous à Goma souffrent plus que ceux qui sont dans les camps. Les écoles dans la partie ouest de la ville ont du mal à fonctionner, ajoute le site d'information, en raison du danger que font peser les tirs d'armes lourdes. Face à cette situation, les écoles commencent à fermer afin de protéger les enfants.
Afrique arabe de son côté s'interroge.
Qui peut arrêter le M23? C'est la question que pose Afrique Arabia qui constate, lorsque la diplomatie est en panne, ce sont souvent les armes qui prennent le relais. Après l'échec du processus de paix de Luanda entre Kinshasa et Kigali et un dialogue de Nairobi au point mort entre les groupes armés et le gouvernement congolais, rien ne semble arrêter le M23 dans sa percée vers le sud Kivu, estime Afrique Arabia, qui cite toutefois une source sécuritaire selon laquelle le M23 ne devrait pas s'aventurer à vouloir prendre les villes de Goma ou de Bukavu. Pour mettre la pression sur Kinshasa et pousser le gouvernement à négocier, le M23 peut s'en tenir à encercler et asphyxier Goma, ajoute Afrique Arabia. D'autant plus que la prise de la capitale du Nord Kivu serait coûteuse en vies humaines avec la présence de centaines de milliers de réfugiés dans la zone, conclut le site d'information.
La situation dans la région n'en est pas moins préoccupante.
Selon Jeune Afrique, Félix Tshisekedi a d'ailleurs écourté son séjour à Davos, en Suisse, où il assistait au Forum économique mondial. Selon deux de ses collaborateurs, précise Jeune Afrique, il devait atterrir hier en fin de journée à Kinshasa et réunir plusieurs de ses collaborateurs afin de faire un point sur la situation dans l'est du pays. Retour en RDC également pour Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, en mission au Vietnam, qui a confirmé à Jeune Afrique qu'il écourtait son séjour. jours pour revenir à Kinshasa. Enfin, les ressortissants américains se trouvant dans la région du Nord Kivu ont été alertés par leur ambassade, nous dit Jeune Afrique. Ils ont été invités à revoir leur plan de sécurité personnelle en cas de départ précipité. L'ambassade des États-Unis expliquant toutefois être limitée dans sa capacité à offrir une assistance consulaire en raison de la dégradation de la situation.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.
RFI Matin.
7h49 à Libreville, au Gabon. Il reste donc moins de 3 jours. On l'a appris ce mercredi. L'élection présidentielle se tiendra le 12 avril dans le pays. Pour amorcer le retour à un régime civil près de 2 ans après le coup d'état militaire du 30 août 2023, que fera son auteur, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a renversé la dynastie Bongo et qui dirige la transition? Sera-t-il candidat à ce scrutin? Et si oui, trouvera-t-il en face de lui des poids lourds de l'opposition? On pose la question à notre grand invité Afrique de ce matin, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Libreville et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Bergès Mietté est au téléphone de Christophe Boisbouvier.
Bergès Mietté, bonjour.
Bonjour.
Le 8 janvier dernier, 4 figures de l'opposition, dont le professeur Albert Ondo-Ossa et l'ancien premier ministre Billy Binzé, ont exigé une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, de se porter candidat aux prochaines élections. Mais est-ce que le code électoral ne prend pas le contre-pied de cette demande?
Oui, tout à fait, puisque le nouveau code électoral dit que désormais, les militaires, comme tous les autres citoyens de la République, peuvent prétendre à des fonctions politiques électives. Donc, lorsque les principaux leaders de l'opposition dont vous citez ont appelé les militaires, en réalité ont appelé Brice Clotaire-Oligui Nguema à ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle à venir, c'était simplement un appel pour que le président tienne les engagements qu'il a pris à l'égard du peuple gabonais au moment du coup d'État, puisque officiellement, lui-même, il avait déclaré qu'il devrait, à l'issue de la transition, rendre le pouvoir aux civils. Je pense que c'est surtout sur cet aspect là que ces leaders-là se sont prononcés.
Donc au terme du nouveau code électoral, le général Oligui Nguema, s'il le décide, va pouvoir se présenter le 12 avril prochain. Comment va réagir l'opinion publique gabonaise par rapport à la promesse qu'il avait faite le 30 août 2023?
Je pense qu'il ne fait aucun doute que le général briguera la magistrature suprême. Ce que l'opinion gabonaise attend davantage, c'est la capacité du président de moderniser le pays. Est-ce que Oligui Nguema, il est capable, mieux que le régime précédent, de transformer le pays, de répartir équitablement les ressources du pays de manière à ce que tous les Gabonais puissent en profiter. Je pense que la vraie question, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si les leaders de l'opposition estiment qu'ils ont la capacité de porter et de réaliser ce projet-là, je pense qu'ils ont tout à gagner à se porter candidat à l'élection présidentielle, de sorte que le meilleur l'emporte.
Mais si l'opposition fait campagne contre le fait qu'un militaire soit candidat, vous pensez que ça n'aura pas beaucoup d'écho dans la population gabonaise?
C'est vrai que depuis quelques temps, l'euphorie qui accompagnait le coup de libération entre guillemets s'est plus ou moins estompée. Certains Gabonais deviennent de plus en plus critiques à l'égard des nouvelles autorités. Qu'à cela ne tienne, Oligui Nguema a encore des soutiens au niveau national et globalement, je pense que beaucoup parmi les Gabonais ne verraient aucun obstacle à ce que Oligui Nguema puisse se porter candidat à l'élection présidentielle.
Alors pour cette élection du 12 avril, les conditions d'éligibilité sont très restrictives. Est-ce qu'il restera des leaders de l'opposition qui seront éligibles?
Oui, les nouvelles autorités se sont employées plutôt avec maestria à neutraliser l'opposition traditionnelle, si bien qu'aujourd'hui, si la candidature d'Oligui Nguema ne fait plus de doute, la vraie question, me semble-t-il, est de savoir face à qui il sera opposé le 12 avril prochain.
Et justement, qui sont les leaders actuels de la classe politique gabonaise qui ne seront ni trop vieux, ni binationaux, ni enfants de parents pas gabonais, ni mariés à un conjoint ou une conjointe pas gabonaise? Qui pourra se présenter?
Je pense que c'est le vrai enjeu, effectivement. Ce scrutin sera-t-il réellement compétitif ou alors il sera question d'un match amical, sans doute entre le général et un opposant des circonstances ou quelqu'un sans réelle envergure?
Et parmi les opposants éligibles, faut-il envisager que certains décident de boycotter ce scrutin?
Oui, sans doute, c'est possible puisque c'est un phénomène qui est quelquefois récurrent au Gabon.
À quelles conditions cette élection sera-t-elle transparente le 12 avril?
On se souvient que la transition intervient à l'issue des élections générales de 2023, dont les résultats ont été jugés frauduleux par les militaires. Donc ils ont pris le pouvoir pour restaurer la dignité des Gabonais et les institutions de la République qui ont été mises à mal par l'ancien régime. Et je pense que ce scrutin-là, c'est un test.
Alors vous évoquez le problème de la transparence des élections. Si elles restent organisées par le ministère gabonais de l'Intérieur, est-ce que cela ne va pas jeter la suspicion sur leurs résultats?
Désormais, au Gabon, le ministère de l'Intérieur est le principal organisme de gestion des élections. Certains doutent la capacité du ministère de l'Intérieur d'organiser de manière démocratique des élections à venir, mais je pense qu'il est trop tôt pour faire ce procès-là. On attend voir comment est-ce que, de manière pratique, les élections à venir seront organisées.
Bergès Mietté, merci.
Le chercheur Bergès Mietté, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier, entretien que vous retrouvez sur RFI.fr. Et bientôt 7h en temps universel, le journal dans 5 minutes tout juste sur RFI. D'abord votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous dites ce matin que d'un pays à l'autre, il n'y a pas que les marchandises qu'on importe. Il y a aussi les personnes.
Oui, lorsqu'on parle d'importation, d'aucuns pensent qu'il n'y a que les marchandises ou les matières premières qu'on importe. Pourtant, les êtres humains s'importent aussi. Il ne s'agit pas d'importation d'êtres humains comme dans le honteux commerce triangulaire, hein, mais d'un système non commercial où ce sont les personnes concernées qui souhaitent être importées. J'ai dit, hein, laisse-moi un peu tes histoires que loin des yeux, près du cœur. Depuis que tu es en Bengla, moi je suis fatiguée d'attendre. Hein. Pardon, viens m'importer. L'importation est une chance pour une personne, une famille, voire tout un village. Je dis, hein, quand le taximan là voulait épouser la fille, si, la liste de la dot, c'était seulement les millions, alors que c'est lui qui a financé ses études avec son taxi. Quand le mbenguiste vient demander sa main, la famille accepte qu'elle soit dotée à crédit. Laisse seulement mon frère. Tu sais que lui, au moins, il va l'importer. Hein? Si on l'effraie avec la liste, c'est une autre famille qui va profiter. Hein? L'importation intervient quand on ne trouve pas sur place ce dont on a besoin. Gars, j'en ai marre d'un go de mbeng. Je pars importer une go depuis le pays. Mako, est-ce que je savais que même ici en mbeng, les gars sont bandits comme ça? Donc la télé nous a menti. Hey, mieux je pars importer mon bon gars que j'ai laissé au pays. Mais l'importation n'est pas toujours sans risque, hein. Mako, tu dis que quoi? Tu importes un homme depuis le pays? Tu es folle. Donc ce que Patricia a subi là ne te dit rien. Après, ne te plains pas qu'une blanche a arraché ton bon gars. Hein. Mieux tu continues de le gérer à distance. Qui dit import dit export. Et souvent l'importateur regrette son importation. Man, n'est-ce pas, je t'avais bien dit que tu ne m'as pas écouté. Aller importer une go depuis le pays, non, tu as le cœur. Moi, je ne peux pas, même si on me tue. Maintenant, Ben lui a ouvert les yeux. Il faut supporter, c'est le risque de l'importation. Ce qui s'importe difficilement ne s'exporte pas facilement. Mais parfois, avec malice, l'importateur devient exportateur. Bah, papa, j'en ai marre là, quand est-ce qu'on repart? Reparti où? Bah, en France. Quand est-ce qu'on y retourne? Qui t'a dit que tu vas retourner en France? Mais il t'avait dit qu'on venait juste en vacances, non? En vacances, hein? Sache donc que tu vas rester ici. Je vais voir comment tu vas faire les doigts d'honneur aux enseignants ici et inventer tous tes mensonges sur moi devant les tribunaux. On importe ce qui est important et souvent on exporte ce qui l'est tout autant. À vendredi.
À vendredi, Charlotte Ntamak, et merci. Bientôt 7h en temps universel et l'info dans 2 minutes.
RFI à Bissau. 94 FM. Bilbao, 97.5 FM.
La Foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI.
organisé par le Centre National du Livre. Les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitdelalecture.fr en partenariat avec France Média Monde.
My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Sur le continent africain, 6 filles sur 10 décrochent avant le bac. L'accès des filles à l'éducation reste un défi majeur. Alors quelles sont les initiatives pour favoriser l'égalité des chances à l'école?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.